Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, de retour aux manettes de Culture Monde après quelques jours de repos. Une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton et Corentin Mansois, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Emmanuel Morse-Duncan. Cette semaine dans Culture Monde, alors que les examens de fin d'année approchent, on va se pencher sur les universités. Demain, on comparera les modèles économiques des facultés d'Europe. Mercredi, retour sur 100 ans de contestation étudiante en Chine et notamment du côté de Tiananmen. Et puis enfin jeudi, on fera une géopolitique de la connaissance avec en ligne de mire l'université au cœur du smart power. Mais tout de suite, direction les États-Unis, entre pot de vin et plainte en justice pour attaquer les politiques de discrimination positive, l'université américaine fait face à une crise profonde. Alors de Harvard à Berkeley, la couleur de la méritocratie, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Les écoles réservées aux Noirs étaient et sont toujours de moins bonnes écoles. Nous n'y avons toujours pas remédié et l'enseignement inférieur qu'elles prodiguaient et continuent de prodiguer permet d'expliquer en partie l'écart que l'on continue de constater entre les résultats des étudiants noirs et ceux des blancs.
J'espère que la Cour va décider que la race et l'ethnie des étudiants ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation des candidatures à l'université.
The Trump administration announced this afternoon it is reversing an Obama-era policy that encouraged colleges to consider race during the college admissions process.
Il faut s'attendre à ce que nos universités deviennent plus blanches, moins diverses et que les bénéfices de la discrimination positive disparaissent.
On entendait à l'instant une ancienne collaboratrice de Barack Obama qui réagissait à la fin de la discrimination positive à l'université. La diversité dans les universités, un sujet sensible depuis longtemps, mais plus encore depuis que l'on en mesure les effets pervers et contre-productifs, et plus encore avec une administration qui voudrait bien les voir disparaître. En effet, ce mois-ci, pour la première fois, le gouvernement Donald Trump a obligé une université à arrêter sa politique de discrimination positive. La ministre de l'Éducation, Betsy DeVos, notoirement hostile à cette pratique, a fait pression sur l'université Texas Tech pour qu'elle cesse d'utiliser ses critères raciaux lors de la sélection de ses étudiants. C'est en fait la poursuite d'une velléité plus ancienne, puisqu'il y a un an déjà, Donald Trump révoquait 24 directives mises en place sous Barack Obama pour promouvoir la diversité. Au niveau fédéral, les enquêtes contre les universités se multiplient pour examiner les critères de sélection assez opaques des étudiants, et certains élèves portent même plainte pour contester cette politique. Aux États-Unis, la discrimination positive, l'affirmative action, est-elle en danger? À qui profite-t-elle vraiment d'ailleurs? Quel est son bilan dans l'accès des minorités à l'université depuis sa mise en place dans les années 60? Qu'est-ce que ce système dit de la méritocratie outre-Atlantique? Est-ce que l'accès au savoir est le même pour tous? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité une sociologue d'abord, Annabelle Allouche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'université Picardie-Jules Verne, auteur d'un ouvrage qui était paru au Seuil en 2017, La société du concours, l'empire des classements scolaires. Vous vous intéressez beaucoup à la France et à la Grande-Bretagne, mais aussi depuis plus récemment aux États-Unis. Et justement, un américaniste avec nous en duplex de Lyon, c'est Olivier Richomme, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également. Vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Lyon 2 et puis auteur d'un ouvrage intitulé « De la diversité en Amérique, politique de représentation des minorités ethno-raciales aux États-Unis », presse de l'université Paris-Sorbonne, c'était en 2013. Alors je ne vais pas aujourd'hui me tenir à la règle du ladies first, pardonnez-moi Annabelle Allouche, je vais commencer avec vous Olivier Richomme, l'américaniste. Il y a quelques jours, Olivier Richomme, le ministère de l'Éducation a passé un accord avec une faculté de médecine, en l'occurrence l'université de Texas Tech, pour lui demander de ne plus prendre en compte les catégories raciales dans la sélection de ses étudiants. Que vous inspire cette décision et qu'est-ce qu'elle vous semble révéler de la manière dont l'actuelle administration appréhende cette question de la discrimination positive à l'université?
Alors c'est un changement important et en même temps j'ai envie de vous dire que c'est pas nouveau dans le sens où par exemple cette je préfère appeler ça une école de médecine parce qu'elles sont quand même l'entrée est très 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 compétitive aux États-Unis et vous y entrez après votre master pour les écoles de médecine ça datait enfin elle était dans le collimateur du ministère de l'Éducation sous Bush déjà et donc en fait on a plutôt l'impression d'un retour en arrière aux années Bush parce que ces politiques d'action positive sont très controversées mais on voit qu'on a quand quand même une nouvelle administration qui va beaucoup plus loin que les précédentes et là qui utilise, on va dire, le pouvoir exécutif à travers le ministère de l'Éducation et surtout qui s'appuie sur le ministère de la Justice pour essayer de faire pression sur ces écoles pour les orienter dans une direction. Et donc on a l'impression qu'on essaye un peu de légiférer sans légiférer. On dit qu'on ne va pas contre le législateur, mais on a quand même aussi une jurisprudence de la Cour suprême qui est là. Et donc on voit que l'exécutif essaye aussi, comme ça, une troisième branche, troisième pouvoir, qui essaie aussi de peser énormément sur l'avenir politique du pays, ce qui est quand même un changement important.
On va voir, évidemment, on reviendra sur les décisions de la Cour suprême américaine en la matière. Mais Annabelle Allouche, en première intention, que vous inspire cette décision? Olivier Richomme nous disait à l'instant, d'une certaine manière, on revient aux années de George W. Bush. C'est ça, finalement, toutes les avancées qu'il y avait eu sous les mandats de Barack Obama, tout ça est effacé et on revient juste avant. C'est un peu l'impression que vous avez aussi?
Oui, absolument. Ce qui est très intéressant, en plus, en complément de ce que disait Monsieur Richomme, c'est aussi que cette administration-là est en train de nommer de nouveaux membres de la Cour suprême qui sont beaucoup plus conservateurs. Donc qui, dans les années à venir, vont être amenés à se prononcer contre, et encore plus contre, si j'ose dire, ces politiques d'affirmative action et de diversité au sens très large du terme. Ce qui est important, je pense, de rappeler, c'est que les politiques de discrimination positive, telles qu'on se les imagine en France, vu de Paris en particulier, ça fait longtemps que ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de quotas pour les Noirs américains, pour les Asiatiques, etc. Depuis les années, la fin des années 70, avec un arrêt de la Cour suprême très important qui s'appelle Bakey en 78, qui fait que la race ou l'ethnicité, on la prend en compte au même titre que tout un ensemble de critères comme les résultats scolaires pour rentrer à l'université.
Mais pas de quotas. C'est vrai que c'est important. Nous, on parle de discrimination positive. Aux États-Unis, on parle d'affirmative action. C'est intéressant de regarder de quoi on parle dans ce contexte américain en particulier. Ça veut dire on privilégie, mais sans quotas précis. Concrètement, ça veut dire quoi l'affirmative action? Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
L'affirmative action, pour moi, c'est véritablement un traitement préférentiel en faveur de populations qui ont été discriminées par le passé. Et aux États-Unis, quelles sont ces populations? Évidemment, ce sont les Noirs américains, si on pense à toutes les mesures liées à l'esclavagisme dans l'histoire des États-Unis, évidemment. C'est aussi les Hispaniques, c'est aussi d'autres minorités comme les Natives, les Natifs, les Indiens, comme on les appelle parfois de manière très abusive en France. Et ces mesures, elles concernent donc l'université, l'admission à l'université, mais aussi les emplois, en particulier les emplois publics, mais aussi l'accès au marché public. Donc la discrimination positive aux États-Unis, c'est pas seulement l'université, même si, c'est important aussi de le noter, ce sont les cas les plus médiatiques, parce qu'ils engagent tout un ensemble de représentations du système éducatif et de la méritocratie aux États-Unis.
Alors Olivier Richomme, peut-être quelque chose à ajouter sur ce concept d'affirmative action, et puis je voudrais revenir sur ce cas de l'université Texas Tech. Vous parlez, vous, d'école, mais il y a donc une enquête qui est en cours pour violation des droits civiques. J'aimerais comprendre ce que la justice reproche à cette université en particulier, concrètement, à quelle source du droit est-ce qu'on s'inspire pour dire que, effectivement, l'université ne respecte pas le droit? Olivier Richard.
Alors, pour repartir un peu depuis le début, en 1964, vous avez le législateur qui est face donc au mouvement des droits civiques, qui décide de passer une grande loi, et en particulier un titre 7 du Civil Rights Act de 1964. Et à partir de là, on dit qu'on ne peut pas prendre en considération la race, l'origine, la nationalité et le sexe. J'aimerais aussi rappeler que la minorité qui a probablement bénéficié le plus de ces actions positives sont les femmes. Et donc, à partir de là, on a une volonté de lutter contre la discrimination. Le mot de discrimination est rajouté par le législateur en 72. Et ensuite, on a une guerre autour de cette définition de la discrimination. En France, on a beaucoup tendance à prendre la définition de la discrimination avec l'intention. En fait, il faut prouver que, par exemple, votre employeur a individuellement décidé de ne pas engager quelqu'un à cause de son origine. Aux États-Unis, très vite, on se rend compte qu'on ne peut pas faire ça, puisque déjà on n'a pas les moyens de faire un procès pour chaque individu, mais qu'en plus, on essaie de lutter contre la discrimination institutionnelle. Et donc, à partir de là, on s'appuie sur les statistiques ethno-raciales, qui sont nombreuses aux États-Unis, on les développe. Il y a un organisme qui est chargé de ça, de mettre en place la loi de 1964. Et à partir de là, on regarde les statistiques. Et s'il y a une disproportion dans la répartition des statistiques, une espèce de manque de proportionnalité ethno-raciale, c'est là qu'on dit, ah, il doit y avoir peut-être une discrimination institutionnelle, et c'est ça qu'on essaye de rétablir, cette espèce de d'équilibre, on va dire, des groupes ethniques. Et donc c'est une définition de la discrimination.
Et pardon, Olivier Richomme, est-ce que ça veut dire que dans le cas précis que j'évoquais de cette université Texas Tech, c'est précisément cet équilibre qui n'est pas respecté ?
Alors, Texas Tech, le problème, c'est la prise en compte du facteur ethno-racial dans les universités extrêmement sélectives. Donc, j'aimerais quand même rappeler aux auditeurs qu'on parle vraiment d'un petit nombre d'universités qui sont extrêmement sélectives dans la plupart des universités. D'ailleurs, dans mon université, moi, la diversité en première ou deuxième année, je l'ai. On parle vraiment des très universités très sélectives. En fait, c'est la prise en compte de ce facteur ethno-racial qui apparaît pour les conservateurs inconstitutionnel, vu que le 14e amendement dit que l'on doit que la loi s'applique à tout le monde de la même façon. Et en particulier pour les écoles de médecine, on se rend compte qu'il y a des situations un peu difficiles, dans le sens où vous avez un très 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 petit nombre d'Afro-Américains en particulier, ou de Latinos, qui ont les résultats scolaires nécessaires, et donc les universités de médecine ont tendance à se battre un peu pour sélectionner le peu d'Africains américains qu'il y a. On leur fait des ponts d'or, on les met dans un avion pour les faire venir, on leur fait visiter le campus, venez chez nous, ça sera mieux qu'ailleurs. Et donc, en fait, on a des pratiques qui sont parfois à la limite, on va dire, de ce que la loi permet. Elles sont souvent dans le collimateur, c'est pas par hasard si c'est aussi Bakke en 1978, l'arrêt dont parlait ma collègue, était déjà dans une école de médecine.
Annabelle Alouche, c'est vous que vous vouliez réagir, et puis ensuite, je voudrais que vous nous expliquiez ce qui a changé, puisque je le disais tout à l'heure dans mon introduction, en juillet dernier, le ministère de l'Éducation et de la Justice ont annulé un certain nombre de directives qui avaient été prises sous Barack Obama. J'aimerais en savoir plus sur ces directives, puisqu'elles ont été annulées. Qu'est-ce qu'il y avait derrière et quels effets elles avaient eu? Mais d'abord, vous vouliez réagir, Annabelle Alouche.
Oui, sur la question de l'obsession américaine, si j'ose dire, pour Harvard, pour Stanford, pour les universités extrêmement sélectives.
Qu'on appelle l'Ivy League.
Ivy League, donc pour désigner les
meilleurs des meilleurs, la crème de la crème.
Exactement, la crème de la crème, qui sont plutôt d'ailleurs des universités privées situées dans le nord-est des États-Unis, donc au nord de New York, autour de Boston. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que au-delà de l'aspect juridique qui a très bien été décrit par mon collègue, il faut prendre en compte l'attachement aux États-Unis à la méritocratie. C'est un mythe, mais c'est aussi véritablement une croyance qui est à la vie dure, et c'est un mythe très individualiste, enfin qui souligne à quel point les Américains sont attachés à une représentation très individualiste de leur réussite. Mettre des quotas ou réfléchir à des questions autour de la race, c'est aussi discuter les frontières de ce mythe méritocratique de réussite.
Vous pouvez nous rappeler les directives qui avaient été émises sous le mandat de Barack Obama. Il y en avait une vingtaine, je crois, un peu plus, entre 2011 et 2016. Qu'est-ce qu'elles prévoyaient et qu'est-ce que ça change que de les annuler, finalement?
Absolument. Ce qui est très intéressant avec le plan Obama, c'est qu'il était, si j'ose dire, divisé en deux parties. Il y avait une partie donc qui était relative à l'accès à l'université, et l'accès à l'université pas seulement relativement aux critères de recrutement, mais aussi à la question financière. Et c'est pour ça que ça donne un miroir très intéressant pour la France en ce moment, à l'heure où on est en train de réformer les frais d'inscription à l'université en particulier.
Ça vient de passer au journal officiel il y a quelques jours. Hein.
Absolument.
L'augmentation, c'est plus de 10 fois ce que c'était sur la rentrée précédente. Je vais faire ma parenthèse.
Et l'administration Obama, en fait, a proposé un plan à partir de 2011 autour de la gratuité d'un certain nombre de filières, et notamment des filières courtes qu'on appelle aux États-Unis les community colleges, qui sont plus ou moins l'équivalent de nos BTS et nos DUT. Et BTS et DUT qui accueillent en grande partie des élèves issus de milieux sociaux plus populaires, si j'ose dire, mais aussi issus de minorités ethnique. Donc l'idée, c'était de faire basculer ces filières-là très massifiées, si j'ose dire, ou qui accueillent ces publics-là, de les faire basculer dans la gratuité. Donc c'était la première partie du plan Obama. La deuxième partie du plan Obama, effectivement, c'était prendre en compte la discrimination positive, pas seulement dans les universités, mais aussi du point de vue des politiques scolaires, c'est-à-dire concernant les écoles primaires, les collèges et les lycées, si j'ose dire, avant tout les lycées. L'extrait que vous avez passé en chapeau de l'émission le montrait très bien. L'idée, c'est que on doit, puisque les institutions du supérieur sont plus autonomes que les lycées, les collèges et les écoles primaires, y compris aux États-Unis, le gouvernement fédéral a plus de leviers, si j'ose dire, pour avoir un impact sur ces établissements-là. Or, c'est évidemment là où se créent les inégalités sociales et les inégalités à l'égard des minorités ethniques.
Olivier Richomme, comment vous évaluez les effets, les conséquences des différentes directives qui avaient été prises sous le mandat de Barack Obama? Désormais annulé, mais qu'est-ce que ça a eu comme effet?
Symboliquement, très important. Après, dans les faits, je ne sais pas quels pouvaient être les effets, en particulier dans le secondaire et le primaire que je connais beaucoup moins. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ces directives voulaient mettre en place, on va dire, le principe de la diversité qui avait été mis en place par le juge Powell dans l'arrêt de 1978. Et en fait, on en est là depuis 40 ans maintenant. C'est l'impératif de diversité qui est remis en cause par Donald Trump et qui était avancé par l'administration Obama. Et cet impératif de diversité, on met un peu ce qu'on veut derrière.
Mais que je comprenne bien, Olivier Richomme, finalement, ces directives fédérales, est-ce qu'elles obligent réellement, est-ce qu'elles obligeaient, puisqu'elles n'existent plus, les universités, ou est-ce que, en réalité, sur le terrain, les universités, les facultés conservent une certaine liberté, une certaine autonomie dans leur mode de recrutement?
L'exécutif ne peut pas se substituer à la jurisprudence de la Cour suprême, mais on peut rendre la vie difficile de ces universités, et en particulier on l'a vu dans l'exemple du Texas que vous mentionnez. Au bout de 14 ans de procédure d'être dans le collimateur du ministère de l'Éducation, et on baisse les bras et on dit simplement, parce qu'en fait vous risquez de perdre des financements, et surtout vous risquez, si vous êtes une université publique ou partiellement publique, mais ensuite vous risquez aussi d'avoir des frais pour un procès qui pourrait être extrêmement long, extrêmement coûteux, c'est pas bon pour votre image, et donc simplement vous baissez les bras. Une seule université face à la machine que représente l'État fédéral, par exemple le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, on se rend bien compte qu'il y a des universités qui vont essayer de résister, et puis il y a d'autres qui baisseront les bras.
Si on revient un petit peu, vous avez évoqué déjà un certain nombre d'arrêts qui avaient été rendus par la Cour suprême américaine. Plusieurs fois, elle a dû se positionner sur cette question de la discrimination positive, de l'affirmative action, 78, 2003, 2016. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à grand trait ce qui a été dit? Est-ce qu'en gros on est toujours dans le sens d'une liberté totale en matière d'application de politique de discrimination positive?
En fait, la jurisprudence, et c'est une des raisons pour laquelle elle est controversée, est extrêmement peu claire. En 78, je vous montre à quel point c'était controversé. On n'a pas une décision en fait de la Cour suprême avec une majorité. On a 4 juges conservateurs qui disent quelque chose, 4 juges progressistes qui disent une chose, et puis un juge qui reste au milieu, Justice Powell, et qui dit oui, en fait, l'impératif de diversité est important. Il faut que dans les classes, on ait des personnes, d'origine différente. Pour l'université, c'est important. Et donc, derrière ce principe de diversité, qui peut être d'ailleurs, on peut être discuté, son opinion n'est pas parfaite, mais c'est le compromis politique qui a été mis en place en 78. Ensuite, on s'est rendu compte que, en particulier, les présidences ou les leaders républicains voulaient en découdre de cette des politiques d'affirmative action, mais n'y arrivait pas par le législatif. L'exécutif est quand même assez limité dans ce qu'il peut faire, et donc on a décidé d'utiliser les juges, et notamment par le biais de nominations à la Cour suprême. Et donc on a une attaque jurisprudentielle à partir des années 90. En 2003, on a le dernier, vraiment, les deux arrêts qui ont été pris concomitants, qui nous donnent encore une fois une jurisprudence encore plus compliquée sur ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Et on en est à peu près resté là depuis. C'est-à-dire qu'on a le droit de prendre l'identité ethno-raciale des étudiants en compte, mais ça doit être un critère parmi tant d'autres. Et surtout, on ne doit pas leur donner des points. Ça ne doit pas être une formule mathématique. En fait, on fait un peu tout pour cacher cette prise en compte et ne jamais savoir vraiment quel poids l'identité ethno-raciale a eu dans la décision de sélectionner un étudiant ou non.
Annabelle Alouche, il se trouve que très récemment, Donald Trump a nommé un nouveau juge à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, qui est un homme qui est très conservateur. Est-ce que cette nomination pourrait avoir une incidence sur de futures décisions de la Cour suprême en matière de discrimination positive, d'affirmative action? Est-ce que tout simplement, ça pourrait devenir illégal aux États-Unis?
Alors, illégal, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, la nomination vient de manière tout à fait ajustée pour défendre la lutte de Trump contre la discrimination positive dans les universités, parce qu'évidemment, il y a un cas extrêmement célèbre qui va bientôt arriver devant la Cour suprême. C'est le cas qu'on appelle déjà Students for Fair Admissions versus Harvard, pour le dire avec en français, les étudiants pour une admission plus juste contre Harvard. Et c'est en fait une sorte d'association d'étudiants d'origine asiatique, donc américains d'origine asiatique, qui traînent Harvard en justice pour discrimination devant les admissions. Ce qui est important de rappeler, et mon collègue parlait d'attaque jurisprudentielle, et en ce sens, il a tout à fait raison, c'est que ces cas, ces procès à l'attention d'Harvard et des Ivy League Universities, elles sont souvent soutenues par des associations contre les droits civiques, contre la diversité. Donc c'est pas seulement les étudiants qui traînent l'université en justice parce que ils se sentent discriminés, c'est tout un mouvement conservateur qui défend une cause, la cause de la lutte contre la diversité et donc la cause, si j'ose dire, contre la discrimination positive.
Alors, on va en parler justement dans un instant et on va s'intéresser en particulier effectivement aux Asiatiques et ce qu'on appelle aux États-Unis la pénalité asiatique et tout ce qu'il y a derrière. Mais d'abord, replongeons-nous un tout petit peu dans l'histoire. L'affirmative action, c'est les années 60, début des années 60, et il y a un nom évidemment qui est quasiment devenu l'un des symboles en tout cas de la lutte pour le mouvement des droits civiques. C'est James Meredith, le premier étudiant noir à l'université de Mississippi. Il est rentré dans cette université le 1er octobre 1962. Archive.
James H. Meredith is formally enrolled at the University of Mississippi, ending one chapter in the federal government's efforts to desegregate the university.
Les Américains sont libres de ne pas être d'accord avec la loi, mais non de désobéir. Dans un état de droit et non d'individu, aucun homme, aussi important ou puissant soit-il, et aucune foule, aussi turbulente ou incontrôlable soit-elle, n'a le droit de défier un tribunal de justice. Si ce pays devait un jour arriver au point où un homme ou un groupe d'hommes, par l'usage de la force ou la menace de son usage, parvenait à défier les ordres de notre cour et de notre constitution, alors aucune loi ne serait à l'abri du doute, aucun juge ne serait sûr de son décret, et aucun citoyen ne serait en sécurité face à ses voisins.
Voilà le président américain John Fitzgerald Kennedy qui à l'époque intervient à la télévision suite justement à plusieurs jours d'émeutes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce qui pose problème, vous l'avez dit Annabelle Alouche, c'est la question des étudiants asiatiques. Il y a quelques années, ils ont déclenché une action contre l'université d'Harvard, vous l'avez dit, qui s'y poursuit aujourd'hui et la Cour suprême devrait se prononcer sur ce cas. Ils considèrent ces étudiants que les critères de recrutement à l'université d'Harvard, donc en l'occurrence les désavantages par rapport aux Noirs et aux Hispaniques. D'abord, est-ce que c'est le cas? Est-ce que les Asiatiques sont désavantagés par les politiques d'affirmative action telles qu'elles existent aujourd'hui par rapport aux autres minorités? Puis on posera la question à Olivier Richard.
Ce qui est très intéressant, en fait, dans ce type de justification pour lancer le procès, c'est que c'est absolument pas nouveau. Vous avez le cas précédent en termes de grandes décisions de la Cour suprême sur la question de l'affirmative action qui reposait déjà sur le même argument. L'affirmative action ou des formes de politique de la diversité vont à l'encontre de la majorité ou vont à l'encontre d'un certain nombre de public. Et c'était le cas donc pour le cas précédent d'une étudiante à l'université de Texas Austin qui s'appelait Abigail Fisher. Donc c'est une décision de la Cour suprême qui a été rendue en 2016 qui reposait exactement sur cette idée que la discrimination positive ou ce qu'on appelle le percentage plans en Texas, c'est-à-dire on prend les 10% des meilleurs étudiants de tous les lycées et on les envoie dans cette université-là, a un effet discriminant à l'égard non plus des Asiatiques mais à l'égard des Blancs. Pour le dire clairement. C'est ce cas en fait a été la Cour suprême a débouté la plaignante et ce que je note c'est que c'est toujours le même type de légitimation. Alors contre est-ce que c'est véritablement discriminant à l'égard des majorités ou pas? Non. Évidemment, quand on regarde les statistiques, que ce soit celles d'Harvard ou celles de l'enseignement supérieur aux États-Unis, les Blancs américains, white Americans, restent vraiment la très grande majorité des étudiants dans les universités en général, filières courtes, filières longues, et en particulier dans les filières extrêmement sélectives. Ça peut aller jusqu'à 70-90% des populations étudiantes qui sont issues de ces majorité, si j'ose dire. Alors, concernant les Asiatiques, ou les étudiants américains d'origine asiatique, a priori, C'est pas le cas.
Alors justement, a priori, c'est pas le cas, Olivier Richaud. Ce qui est pratique aux États-Unis, j'allais dire, enfin pratique, je mets des guillemets, c'est qu'en fait, comme on peut faire des statistiques ethniques, on sait un petit peu les choses. La population asiatique, les Asian Americans, c'est 6% de la population totale. Et quand on regarde Harvard, c'est 22% des élèves de Harvard qui sont d'origine asiatique. Donc, d'un point de vue numérique, ils ont pas l'air franchement lésés, Olivier Richaud. Sauf que quand on regarde les choses de près, c'est pas si simple.
Et oui, c'est le problème d'avoir une approche qui se base exclusivement sur ces groupes statistiques qui homogénisent des catégories extrêmement différentes. C'est d'ailleurs ça qui a mené à ce mythe, on va dire, de la minorité modèle, des Asiatiques qui sont montrés comme une minorité modèle. Si vous regardez dans le détail, en fait, et c'est le problème de ces politiques d'action positive, c'est qu'elles aident en particulier les minorités qui peuvent être aidées. C'est-à-dire que ce sont souvent des étudiants de 4e, 5e génération, ce qui concerne les Asiatiques américains, dont les parents étaient dans les universités d'élite, qui viennent de milieux privilégiés. Et donc, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est bien plus compliqué, que les Blancs ne sont pas tous favorisés, loin de là, que les Africains américains non plus, qu'il y a une vraie diversité au sein de ces catégories, une vraie hétérogénéité. Et donc, en fait, on se rend compte que ces politiques d'action positive aident en particulier l'élite, mais qu'elles ne font rien pour lutter contre les inégalités plus profondes à l'intérieur des groupes, en particulier de ce que Julius Wilson avait appelé underclass, ceux qui sont vraiment en bas de l'échelle sociale. On ne lutte pas vraiment contre les inégalités profondes de la société américaine, mais simplement une petite élite qui se bat pour entrer dans quelques universités d'élite.
Pour avoir une petite idée de ce qu'il y a derrière ce qu'on appelle aux États-Unis l'Asian Penalty, 2009, il y a un sociologue de Princeton qui s'appelle Thomas Espenhead qui a publié une étude très intéressante qui montre que pour être accepté dans les meilleures universités, je parle des meilleures universités, là, les fameuses Ivy League, les Asiatiques doivent en moyenne obtenir 450 points de plus que les Afro-Américains et 140 points de plus que les Blancs au test d'entrée. Voilà ce qu'a montré son étude. Donc on voit bien là qu'ils sont victimes d'une certaine manière de leur réussite scolaire particulièrement notable par rapport aux autres ethnies. Annabelle Alouche, vous voulez réagir?
Oui, ce qui est très intéressant de noter, c'est aussi que aux États-Unis, l'accent est mis sur la question raciale, alors que, comme vous l'avez noté, comme Olivier Richaud l'a également noté, ce qui compte dans l'accès à l'université, comme en France, comme en Grande-Bretagne, c'est les inégalités sociales, c'est-à-dire les inégalités en termes de classe sociale. Et effectivement, quand on regarde la population à Harvard, les minorités ethniques, notamment afro-américaines ou asiatiques, viennent en majorité de milieux très favorisés. Et là est aussi le problème, si j'ose dire. Sauf que en se focalisant exclusivement à la fois sur les Ivy League et à la fois sur la question ethnique, bon, on répond certes à une question extrêmement importante d'un point de vue politique, mais
on passe à côté
d'un
l'essentiel du problème.
Exactement.
En réalité.
Et le plan Obama visait à ça. En fait, en travaillant sur les politiques scolaires, le lycée et l'école primaire, l'idée c'était mettre un terme aux inégalités sociales d'accès et de réussite à l'école avant avant seulement l'université et avant seulement de se focaliser sur ces questions-là.
Mais Olivier Richaud, peut-être Donald Trump a-t-il justement des intentions pour soutenir, aider les plus défavorisés dans l'accès à l'université ? Il pourrait peut-être recentrer l'affirmative action sur des critères exclusivement socio-économiques, Olivier Richaud.
Non, en ayant sélectionné Madame DeVos, c'est une sélection qui a d'ailleurs été très controversée. On n'est pas du tout.
Qui est la ministre de l'Éducation,
Ministre de l'Éducation et qui est favorable à la privatisation un peu de tout. Non, ce que l'on voit de l'administration Trump, c'est par exemple une sélection du juge Kavanaugh dont vous parliez justement, qui a été sélectionné, qui vient remplacer Kennedy. Le dernier arrêt de la Cour suprême en 2016 à Fisher v. Texas, que rappelait ma collègue, c'était Kennedy qui a été le vote pivot. Il a été remplacé par Kavanaugh et on l'a sélectionné justement parce qu'il est hostile aux politiques de affirmative action, à l'avortement, enfin tout ce qui fait plaisir à Monsieur Trump.
Quelle est la stratégie, Olivier Richaud, de la communauté asiatique, des mobilisations des Asiatiques? Est-ce que c'est mettre un terme à l'affirmative action? Est-ce que c'est la transformer pour qu'elle leur soit plus favorable? C'est quoi l'idée?
Il n'y a pas de communauté asiatique et la communauté asiatique est comme le reste du pays, elle est profondément divisée sur cette question. Le fait de mettre en place des normes de proportionnalité ethno-raciale à l'université ne satisfait personne. Là, on le voit pour le procès, on a de deux côtés, on a un problème. Il n'y a pas de victimes. Vous avez des étudiants asiatiques qui j'ai pas été pris à Harvard, bouhou, je suis pris à Cornell. Vous pouvez pas justifier vous n'avez pas vraiment souffert de grand chose. Et de l'autre côté, vous avez une sélection à Harvard qui est très opaque. Et on dit, comment ça se fait que tous les Asiatiques et tous... alors, le problème du procès, c'est que c'est leur personnalité qui ne va pas. Visiblement, ils ont tous des personnalités qui sont moins... Ils ont moins d'humour, ils ont moins de... Et donc, on a un biais de sélection qui est extrêmement, difficile à analyser. Et donc, on voit qu'on a une politique qui est imparfaite. Le problème, c'est que on ne peut pas s'en défaire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ce sont des politiques qui doivent être temporaires par nature, hein, c'est toujours... Et en fait, on se rend compte qu'on a du mal à s'en défaire parce que c'est ce qu'on a trouvé comme pire aller pour dire qu'on luttait contre le racisme et la discrimination institutionnalisée aux États-Unis.
Vous dites, Olivier Richom, qu'il n'y a pas de communauté asiatique et qu'au fond, on est extrêmement divisé sur cette question-là. Est-ce que politiquement, on peut dire la même chose? Est-ce que, en gros, si je dis que le Parti républicain est plutôt opposé à l'affirmative action et que le Parti démocrate est plutôt favorable à l'affirmative action, est-ce que je dis quelque chose de vrai ou pas?
Oui, on est divisé des deux côtés. Le problème, c'est que le Parti républicain tel qu'il est aujourd'hui, il était avant divisé sur ces questions. Mais en fait, on se rend compte que ce que fait l'administration Trump, là, en fait, avec revenant sur les directives Obama, c'est extrêmement... C'est plutôt, d'un point de vue, à mon avis, plus important du point de vue symbolique, pour sa base, c'est qu'en fait, on a un parti républicain qui s'est recroquevillé sur ces quelques problèmes, on va dire, culturels, identitaires, que sont, par exemple, les actions positives. Et en fait, on voit bien que le Parti républicain maintenant est devenu presque monolithe quand on touche à certaines de ces questions. Alors par contre, du côté démocrate, effectivement, il y a un peu plus de division, mais ce sont des politiques qui divisent franchement le pays depuis longtemps, depuis plusieurs décennies.
Et l'opinion? Elle est divisée aussi.
L'opinion publique est très ambiguë sur la question, comme les universitaires, j'aimerais vous dire, c'est que on ne peut pas s'en défaire. D'un point de vue politique, d'ailleurs, la Cour suprême va devoir se prononcer sur la question des Asiatiques à Harvard, et tout le monde attend avec impatience pour savoir ce qui va s'en dire, parce que on sent bien que le pays se déchire sur cette question, parce qu'elle touche à plusieurs choses, notamment l'identité ethno-raciale, la discrimination ethno-raciale et le problème du racisme historique aux États-Unis, mais aussi l'anxiété vis-à-vis du diplôme, vis-à-vis de l'université et en fait, en fin de compte, les inégalités rampantes aux États-Unis qui s'accroissent et contre lesquelles on a du mal à trouver des remèdes.
Annabelle Allouche, on le voit bien, finalement, il y a beaucoup de divisions sur ces questions-là. Ces mesures ne sont pas toujours productives, en tout cas, il y a aussi des effets un peu contre-productifs. On voit bien que finalement, c'est pas complètement satisfaisant. Et puis par ailleurs, il y a un autre élément, c'est l'élément démographique. Dans quelques années, dans une vingtaine d'années, la majorité des Américains seront ce qu'on appelle aujourd'hui des minorités raciales et ethniques. Afro-américains, asiatiques, indiens, etc., etc. Donc on a aussi un effet démographique qui pourrait faire que peut-être, pour le dire autrement, en gros, les blancs, les Américains blancs seront minoritaires. Est-ce que ça veut dire qu'on va basculer mécaniquement dans une Amérique où, au fond, on sera obligé d'une certaine manière ou mécaniquement on va oublier l'affirmative action puisque les minorités seront majoritaires d'une certaine manière?
Alors je ne sais pas si les minorités seront majoritaires,
c'est ce que disent les démographes,
mais en tout cas c'est sans doute le cas dans un certain nombre d'états, notamment l'état du Texas où on suppose qu'à un moment les minorités notamment d'origine hispanique vont devenir effectivement la majorité. Encore une fois, en tant que sociologue et sociologue de l'enseignement supérieur, je voudrais souligner à quel point les inégalités d'accès dans le supérieur, c'est toujours le produit des inégalités sociales et socio-économiques, comme vous l'avez dit très justement, dans le primaire et dans le secondaire. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une population majoritairement de minorités ethniques, si j'ose dire, que ces gens-là vont mécaniquement se retrouver à l'université, et en particulier dans les universités les plus... côté les plus sélectives. Ce qui est important de noter aussi en tant que sociologue de l'éducation, c'est qu'effectivement, pourquoi les questions de discrimination positive, de recrutement, de concours, de scandale autour de la corruption d'accès à Stanford ou à Yale clivent l'opinion publique américaine et même l'opinion publique mondiale, si j'ose dire. C'est parce qu'évidemment, l'accès au diplôme et à un certain type de diplôme change tout dans une trajectoire sociale, change tout dans l'accès à un certain type de position sociale, change tout dans l'accès des salaires plus élevés, disons-le clairement. Et c'est ça qu'il faut rappeler, je pense, au-delà de la seule question des clivages ethniques qui sont évidemment extrêmement importants aux États-Unis.
Oui, parce qu'il y a un autre élément qu'on n'a pas évoqué, Olivier Richomme, mais qu'on pourrait peut-être aborder à présent, c'est que, outre les considérations ethniques et raciales, il y a un autre élément qui semble particulièrement décisif, et peut-être en particulier pour les meilleures universités, la fameuse Ivy League dont on parlait, c'est le fait d'avoir aussi un parent qui a été élève ou non dans l'université dans laquelle on postule. Aux États-Unis, il y a même un nom pour ça, on appelle ça le Legacy Prevency. En quoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un critère important, et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui il est de plus en plus important? C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, pour accéder aux meilleures universités, il faut que papa ou maman ait fait la dite université.
Alors, Sylvain Delorme, je vais répondre à votre question.
Mais Florian Delorme, juste... mais c'est pas grave.
Pardon. J'aimerais juste répondre à votre question.
Je vous en prie.
J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit juste avant, sur la notion de minorité et de nombre. En fait, le statut de minorité est un statut politique et le nombre n'a pas grand-chose à voir. Vous pouvez être une majorité en nombre et rester une minorité politique. Et c'est pour ça que l'accès à l'université est aussi controversé. C'est qu'en fait, c'est une bataille pour l'accès à des postes de pouvoir. Puisque quand vous passez par Harvard, ensuite, vous serez soit un grand dirigeant d'entreprise... Ou vous serez membre enfin du parti politique, ou vous accéderez au Congrès. Donc en fait, c'est vraiment pour l'accès des postes très symboliques et des postes de pouvoir, des postes extrêmement rares. Et maintenant, pour revenir à ce que vous disiez, la mise en place de ces... Alors, j'aime pas employer l'expression discrimination positive, parce que en fait, d'un point de vue américain, j'ai l'impression d'être un conservateur quand je dis ça. C'est comme si on parlait de harcèlement positif pour essayer de lutter contre le harcèlement. Ça, c'est une expression qui ne traduit pas vraiment la perspective américaine sur les choses. Donc je vais employer l'expression d'action positive, mais elle a été facilement mise en place vu que l'université américaine en particulier, mais l'éducation en général, est loin d'être démocratique. Et on a des tas d'exceptions. Et vous mentionnez le legacy, le fait que si vos parents ont eu accès à cette université, ça vous donne
priorité.
Un avantage.
Priorité, vous êtes prioritaire.
Voilà. En particulier si vos parents étaient riches et qu'ils ont donné pour l'université, si vous avez votre nom sur le nom de votre famille sur la bibliothèque, vous serait extrêmement prioritaire. Et donc l'accès à l'université est d'autant plus intéressant pour vous, c'est que vos enfants aussi bénéficieront de cet accès. Et puis vous avez aussi plusieurs générations. Vous avez d'autres passe-droits, et en particulier tout ce qui est les gens qui ont des talents spéciaux. En particulier, on parle surtout de l'accès pour les athlètes, qui est très controversé aussi. Mais je pense qu'on
va y revenir dans un instant. Mais c'est très répandu le legacy preferences. Il y a beaucoup d'universités pour lesquelles, effectivement, vous avez un avantage lorsque le père ou la mère est rentré dans cette université. Annabelle Alouche.
Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ce type de dispositif permet une plus grande autonomie ou assure l'autonomie de l'institution dans leur mode de sélection. Pourquoi ils y tiennent, finalement, alors qu'ils savent très bien que c'est absolument pas méritocratique? C'est parce que c'est une façon de garder un lien, évidemment, avec leurs anciens qui sont souvent des financeurs. Si on pense, par exemple, que Bill Gates, que Mark Zuckerberg sont des financeurs, des donateurs extrêmement importants d'Harvard, on voit à quel point c'est important de garder un lien avec ces gens-là, parce que ce sont des institutions privées. Donc évidemment, leur fonctionnement dépend de leur budget dépend des relations qu'ils entretiennent avec leurs anciens. D'où l'intérêt de garder ce type de politique-là pour rester autonome. C'est pour ça qu'ils y tiennent finalement. Mais est-ce que c'est important? Oui, c'est particulièrement important dans ce type d'institution.
Annabelle Alouche, et puis je poserai aussi la question à Olivier Richomme. Il y a quand même un système assez simple qu'on pourrait utiliser justement pour l'accès à l'université. C'est regarder tout simplement les notes. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le SAT, le Scholastic Assessment Test, qui en gros évalue un peu votre niveau de compréhension, qui est évidemment décisif pour l'accès à l'université. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses et que ces autres choses forment un système qui est particulièrement opaque. Est-ce que vous croyez, Annabelle Alouche, à un système où finalement la seule chose qui compterait, ce serait les notes que vous obtenez? Parce que voilà, la méritocratie, ça pourrait être ça.
Absolument. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est que ce que vous décrivez comme tout un ensemble de critères ou de faisceaux d'indices qui sont mobilisés pour recruter, c'est ce qu'on appelle la holistic review. On prend le dossier d'un élève et on regarde absolument tout. On regarde son origine socio-économique, son background ethnique évidemment. On regarde ses notes au SAT, donc un SAT général, un SAT par discipline. On regarde aussi les lettres de recommandation des enseignants et des conseillers d'orientation qui ont été ajoutés au dossier. Les controverses en ce moment parmi les universitaires, mais aussi parmi les présidents d'université, pour avoir plus de méritocratie, de manière très surprenante pour une oreille française, c'est autour de la question du tirage au sort.
Le tirage au sort, oui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Bah, on en parle beaucoup en démocratie tout court, hein, le tirage au sort.
Absolument, le tirage au sort à Athènes, c'était la manière la plus méritocratique, si j'ose dire, en tirant un petit peu ce fil-là et en parlant un peu de manière abusive, en faisant un anachronisme. C'était, en Grèce antique, la meilleure manière de sélectionner ou de désigner les gouvernants.
Olivier Richomme, vous pensez que les États-Unis pourraient se mettre au tirage au sort et d'une certaine manière faire ce retour vers la démocratie athénienne ?
Non, le tirage au sort ne me semble pas une option. Par contre, ce que vous disiez sur l'approche holistique, c'est tout à fait vrai, mais ça, c'est pour les grandes universités. Et ça coûte très, très cher. Et donc, en fait, on se rend compte que pour les universités, lambda, elles n'ont pas les moyens de passer autant de temps sur chaque candidat et qu'on se retourne souvent vers un système un peu mathématique, comme on a vu dans d'autres pays, je ne citerai pas, mais qui ont des algorithmes parce qu'on n'a pas les moyens de vraiment sélectionner les dossiers des étudiants. Mais ça soulève un vrai problème, le problème de l'évaluation, le problème de la valeur de l'évaluation. Et aux États-Unis, ça fait bien longtemps qu'on s'est rendu compte, et en particulier après le mouvement pour les droits civiques, que simplement de juger les gens sur leurs notes, alors qu'ils étaient nés dans des conditions sociales différentes, était juste pas inacceptable et ne pouvait pas mener à une vraie égalité.
Allez, on va parler du sport universitaire.
Final seconds playing out. End of a fabulous tournament. Rebound into the hands of Hunter.
Voilà, c'était le 8 avril dernier, se déroulait la finale de la compétition inter-université de basket opposant les Cavaliers de Virginie aux Red Raiders des Texas Tech, remportée par l'équipe de l'université de Virginie. Ces athlètes étudiants bénéficient de bourses faramineuses pour étudier dans les universités les plus prestigieuses du pays. Alors, a priori, archétype de la méritocratie à l'américaine, où l'ascension sociale se fait par l'effort personnel et la sueur, ce système de bourses sportives est en fait un business assez juteux. Peter Markey, qui est maître de conférence en histoire des États-Unis à l'université de Rouen, nous explique ce système et pour commencer, il va nous dire ce que le sport tout simplement représente dans les universités américaines. Il est au micro de Maïder Gérard.
Aux États-Unis, c'est la vitrine de l'université, c'est la marque de fabrique parfois, c'est l'occasion pour les universités peu connues, celles qui n'appartiennent pas à la Ivy League, d'être connues nationalement. L'université d'Alabama, par exemple, qui est la plus qui a le plus de succès pour le football américain, l'université du Kentucky, qui elle remporte très souvent les championnats de basket, sont connues grâce à leur programme sportif.
Des étudiants bénéficient de bourses pour faire du sport dans l'université, qui représentent des centaines de milliers de dollars. Pourquoi ils bénéficient de ces bourses ?
Oui, en fait, les universités cherchent à attirer de plus en plus les joueurs, d'ailleurs de plus en plus tôt, parfois avant même le lycée. Ils envoient des spécialistes pour recruter dans les lycées autour des universités afin d'avoir les meilleurs joueurs. En réalité, pour comprendre l'engouement du sport universitaire, il faut se rappeler que depuis quelques années, et même en fait à l'origine, les universités avaient des départements sportifs qui les ont rendus célèbres. Et aujourd'hui, ça génère énormément d'argent. Pour vous donner quelques chiffres, une université peut perdre en fait 1 million si un match n'a pas eu lieu. C'était le cas en 2015, quand une équipe a refusé de jouer pour protester contre la politique du président de l'université vis-à-vis des violences racistes qui avaient eu lieu sur leur campus. Donc ça génère énormément d'argent. Mais les universités sont tenues par un code d'honneur de l'amateurisme à ne pas payer les joueurs. Donc ils doivent être des étudiants avant d'être des joueurs. Donc pour ne pas les payer, ils doivent quand même leur donner une compensation sous la forme d'une bourse, une bourse d'études. Ils sont défrayés en ce qui concerne les frais de logement, pour leur repas et aussi pour les études elles-mêmes. Mais ces bourses sont loin d'être parfaites pour les personnes concernées, puisque généralement elles sont valables qu'une année. Il faut justifier le renouvellement pour l'année suivante. Or, le diplôme dure 4 ans la plupart du temps aux États-Unis et elles ne couvrent pas tous les frais, comme par exemple les frais médicaux.
Comment ces étudiants font gagner de l'argent aux universités ? C'est par quel biais ?
Écoutez, c'est un peu impensable pour nous, mais il y a plus de 100 000 personnes qui assistent au match de l'université, par exemple, de Ohio State. À chacun des 10 matchs de la saison, il y a plus de 100 000 personnes dans le stade. J'ai fait une petite recherche sur les 230 équipes de la première division de sport universitaire. La médiane est de 35 000 spectateurs par match. Pour vous donner un peu une comparaison, la médiane pour la L1 dans le football français, c'est 14 000. Donc on voit bien l'engouement de la part des fans qui se déplacent pour aller voir les matchs, et cela maintenant s'accompagne d'une grande popularité à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça génère énormément d'argent. C'est une énorme entreprise, je crois qu'il faut vraiment le comprendre ainsi. C'est une énorme entreprise au sein de l'université qui parfois génère beaucoup plus d'argent que l'université elle-même, ou en tout cas qui paye plus le coach de l'université d'Alabama, donc cette équipe qui est la plus qui a le plus de succès sur les terrains, a gagné 11 millions, c'est-à-dire plus en un seul mois que le président de l'université d'Alabama.
Et est-ce que ces bourses, ça attire beaucoup de jeunes aux États-Unis? Est-ce que c'est intéressant pour eux?
Alors, c'est tout à fait intéressant parce que ça leur permet d'accéder à la promesse de jouer un jour avec les professionnels dans la ligue NFL pour le football ou dans la NBA pour le basketball. Mais cette promesse, en fait, est plus un miroir aux alouettes puisque certaines statistiques qui sont déjà assez vieilles montrent qu'il y a une chance sur 10 000 pour un joueur de lycée qui a un potentiel de finir pro et une chance sur 50 000 de jouer un jour en NBA. Donc il y a beaucoup de prétendants mais très peu d'élus. Et la plupart d'ailleurs ne finissent même pas leurs études, ne sortent pas de leur parcours universitaire avec un diplôme. Les taux les plus élevés sont autour de 50% et la moyenne est autour d'un tiers. Par ailleurs, la plupart s'exposent à des risques importants en termes de santé. Le football américain est un sport violent qui comporte en son cœur beaucoup de contacts, notamment de contacts dans la partie haute du corps. Ces jeunes commencent tôt, parfois avant la puberté, et de manière répétée, se causent des chocs au cerveau, ce qui augmente leurs chances de mort prématurée. Et pour finir, c'est une porte d'entrée vers l'université, seulement pour une minorité défavorisée, qui par ailleurs n'a pas accès à l'université, une minorité afro-américaine. Les parents afro-américains, même s'ils sont conscients des risques, parfois font ce choix pour leurs enfants, pour espérer sortir de conditions socio-économiques difficiles. Mais ça ne touche pas toutes les minorités.
C'est particulièrement les Afro-Américains.
Oui, c'est tout à fait particulièrement les Afro-Américains qui sont de plus en plus nombreux dans les effectifs des joueurs étudiants. Depuis une dizaine d'années, leur proportion augmente. On est aujourd'hui à peu près à autour de 50% pour seulement 40% de joueurs blancs. Or, il y a 14% d'Afro-Américains dans la population américaine. Les taux pour les Hispaniques ou pour les personnes d'origine asiatique sont beaucoup plus bas.
Pour vous, qu'est-ce que ça nous dit en fait du système universitaire américain?
Alors, ça nous renseigne sur le fait que l'université américaine est très différente, bien entendu, des universités françaises ou européennes. Les universités dont j'ai parlé jusqu'à là sont des universités d'État, donc qui disposent de fonds publics, mais qui sont quand même finalement otages d'une transformation du monde du sport, une transformation du monde, je dirais, de l'économie du divertissement, qui, grâce aux redevances télévisuelles, rentre dans un cycle de financement sans contrôle. Chaque année, les télévisions comme ESPN sont prêts à donner de plus en plus d'argent, et ça génère de plus en plus de revenus et personne n'est capable d'arrêter cette machine. Les coachs en profitent directement, comme je vous l'ai expliqué, mais pas seulement, puisque les personnes qui sont membres du conseil d'administration des universités, elles-mêmes aussi sont très attachées à l'image de marque que ça génère et permet d'attirer des étudiants plus prestigieux encore. Je crois que chacun profite de ce système, sauf, il semblerait, les joueurs, en tout cas une grande partie des joueurs. Donc ça nous renseigne sur le fait que l'université américaine n'est pas seulement un lieu d'études, un lieu de recherche, mais aussi un lieu où le financement, notamment des programmes sportifs, joue un grand rôle et transforme cette partie de l'université en entreprise capitaliste. En tout cas, beaucoup s'opposent à cette dérive et voudraient que les joueurs soient payés pour leur rendre justice et aussi normaliser leur statut. Mais cela n'est pas près d'arriver, puisque s'ils étaient salariés, ils pourraient alors devenir des employés de l'université, auraient le droit de se syndiquer, de demander des droits. Par ailleurs, les présidents d'université, même s'ils sont parfois très gênés par cette dérive, notamment parce que elle s'accompagne parfois d'une image de marque négative, une hypermasculinité qui est portée par le football, mais aussi la question bien sûr de la santé des jeunes afro-américains qui semblent être les premières victimes de ce spectacle réservé aux blancs en quelque sorte. Plus on est privilégié, moins on prend de risques dans cette économie-là. Ces présidents d'université sont plus en plus gênés et ont tendance à laisser en fait le département des sports gérer ses financements de manière autonome, en se détachant de leur développement. Pourquoi ne disent pas-ils stop à cette dérive ? Et simplement parce qu'ils ont besoin d'avoir l'aval des membres du conseil d'administration, ce qu'on appelle en anglais des trustees, et il est très impopulaire de financer, de baisser le financement des départements sportifs. Peut-être que le Congrès pourrait jouer un rôle, puisque en fait les revenus des sports américains, du football universitaire par exemple, sont défiscalisés. Ils ne sont pas soumis à l'impôt, sous prétexte que c'est une activité en dehors du marché. Et si le Congrès, si les législateurs changeaient cette règle, alors il y aurait sûrement moins d'argent qui serait investi. Mais de même, quand les coachs, quand les lobbyistes de la NCAA, cette association qui s'occupe du sport universitaire, prend rendez-vous avec les législateurs à Washington, ils sont tous, comment dirais-je, ils perdent un peu leur raison et la raison parce qu'ils sont encore, ils ont l'impression de voir des stars, quoi. Il faut vraiment se rendre compte que les coachs, notamment, mais aussi les joueurs, bénéficient d'une aura qui dépasse parfois celle des professionnels. And Virginia
with the all-time turnaround. Voilà, Peter Marquis au micro de Maider Gérard. C'est absolument incroyable de voir comment le sport est au fond cette machine à cash au cœur d'un certain nombre d'universités américaines et qui fait beaucoup d'argent, peut-être aux dépens justement des minorités dont on parlait. Olivier Richaume, peut-être une dernière intervention en guise de conclusion. On arrive au terme de cette émission. Que vous inspire cette intervention extrêmement éclairante de Peter Marquis? Le sport, vraiment, c'est incroyable comme il guide beaucoup de choses, y compris dans les universités.
Et oui, il y en a qui font des carrières entières sur l'étude du sport aux États-Unis. On est au cœur de l'hypocrisie du système américain. On n'a pas mentionné le rôle des entreprises qui vendent des chaussures, qui sont très impliquées aussi là-dedans. On a vraiment un réseau très imbriqué avec les agents et ce genre de choses. Peter disait que en fait, on voyait pas vraiment de comment on pouvait s'en sortir. Peut-être une petite lueur d'espoir venant des ligues professionnelles. On a l'impression que du côté de la ligue de basket, ils sont en train de court-circuiter la NCAA, cette espèce de cartel universitaire, et que peut-être le sport universitaire va être victime du sport professionnel, des ligues professionnelles qui vont essayer peut-être de ramener un peu plus les jeunes stars dans leur giron.
Même si Peter Marquis ne semblait pas trop croire en l'idée d'une fiscalisation de l'activité sportive universitaire. En tout cas, un grand merci Olivier Richaume d'avoir été avec nous en duplex de Lyon, de la diversité en Amérique, politique de représentation des minorités ethno-raciales aux États-Unis. C'était aux presses de l'Université Paris-Sorbonne. Un grand merci à vous, Annabelle Alouche, de nous avoir accompagnés ce matin pour cette série qu'on entame sur les universités. Je rappellerai le titre de votre ouvrage qui est paru au Seuil en 2017, La société du concours, l'empire des classements scolaires. C'était paru au Seuil. Un grand merci à vous. Voilà, c'est avec ce titre de Tony Allen, No Discrimination, que l'on se quitte. On se retrouve évidemment demain pour des chroniques, une nouvelle chronique estudiantine, mais pour l'heure, c'est un étudiant
prolongé,
voilà. Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on reste avec vous aux États-Unis puisqu'un écrivain américain se penche sur les récents guides du langage publiés par son collège. Est-ce qu'il y lit le désespère? Les choses ont-elles tellement changé sur les campus nord-américains en deux ou trois décennies, Brice?
L'éducation que j'ai reçue au Amherst College il y a plusieurs décennies, je la chéris comme un trésor. Elle a nourri ma curiosité, mon goût pour les idées. Cela me rend perplexe que cet esprit de recherche contradictoire soit étouffé aujourd'hui par un code rigidement prescriptif et moralisateur sur la manière dont il faut dorénavant s'exprimer sur ce campus. C'est ce qu'écrit Rand Richard Cooper, un écrivain américain, commentant le guide du langage commun édité par le Bureau de la diversité et de l'inclusion de ce collège du Massachusetts où il a accompli son premier cycle universitaire. Rand Richard Cooper se définit lui-même comme « liberal », ce qui veut dire « de gauche »,« modéré » aux États-Unis. Il publie cette étude dans Commonweal, la plus ancienne des revues intellectuelles catholiques paraissant aux États-Unis. Elle a été fondée en 1924, y ont publié de très nombreux intellectuels du monde entier, comme Hannah Arendt, Emmanuel Mounier, Georges Bernanos, François Mauriac, Graham Greene et Christopher Lash. Constatant, comme beaucoup d'autres, la montée d'une véritable intolérance idéologique sur les campus américains qui se traduit par ces fameux codes de langage, Cooper estime qu'ils traduisent l'hégémonie intellectuelle récemment conquise par la politique des identités. Plutôt que de se définir en termes de classe sociale, comme le faisaient les étudiants influencés par le marxisme dans les années 60, l'identité en question est définie par la couleur de peau, l'ethnie et surtout de plus en plus par l'orientation sexuelle. Il remarque que les deux tiers du dictionnaire en question sont consacrés aux questions de genre et d'identité sexuelle. Ainsi, l'hétérosexualité est ainsi définie, terme développé par le sexologue Karl Maria Kertbeny en 1868 pour désigner une personne développant des hyper-engouements pour des personnes de l'autre sexe, dénote aujourd'hui une identité sexuelle normalisée et dominante. L'homonormativité est dénoncée en tant, je cite, que « approximation hétéronormative des vies intimes, sentimentales et sexuelles qui sont le produit des normes blanches, néolibérales, capitalistes, sexistes, transmisogyne et cissexiste. »
Alors, à la lecture de ce guide du langage commun, Brice, on se perd dans les acronymes qui prolifèrent, écrit votre essayiste.
Oui, je suis sûr que vous ignorez, Florian, ce que signifie AFAB. Eh bien, ce sont les initiales de Assigned Female at Birth, assignée femelle à la naissance. De même, FTM, Female to Male, désigne une personne en cours de passage de l'identité de femme à celle d'homme. Et bien sûr, MTW pour l'évolution inverse, Man to Woman. Mais le code prescrit de ne surtout jamais utiliser l'expression « changement de sexe », qui est politiquement très incorrecte. Il faut la remplacer par « Gender Affirmation Surgery », chirurgie d'affirmation de genre. Mais sont surtout valorisées les personnes non-binaires, celles qui refusent d'être assignées à un genre quelconque. Définition, une personne dont l'existence magnifique transcende les constructions binaires réductrices et travaille à annihiler, une fois pour toutes, le genre et l'oppression basées sur le genre. La féminité est presque aussi mal vue que la masculinité, définition de la féminité, donc ensemble de conduites et de rôles associés aux filles et femmes d'une manière culturellement construite, ce qui est attendu de personnes assignées en tant que femelles à la naissance. À rapprocher des XTX, je ne suis pas sûr que vous ne savez pas non plus ce que c'est, ce sont les personnes qui sont en transition d'un genre vers un autre mais qui refusent que celui-ci soit précisé davantage que par X. Bien entendu, les titres de civilité Mr. et Mrs. sont à éviter absolument parce qu'ils témoignent de cette assignation de genre. Le mieux est d'utiliser le neutre, Mix. MX, MX. Mais le sectarisme menace. Ainsi, une branche du féminisme rejette les personnes trans qui sont devenues femmes alors qu'elles ont commis le péché d'avoir été hommes dans une ancienne partie de leur vie. C'est ce qu'on appelle le Trans Exclusionary Radical Feminism, là aussi un sigle TERF. La politique des identités est devenue une obsession sur les campus nord-américains. Plutôt que de se confronter à la diversité des idées, les étudiants sont invités à explorer leur précieuse identité, à la définir, afin de se prononcer sur toutes sortes de sujets en tant que membres de telle ou telle communauté victimisée, les seuls évidemment à mériter d'être valorisés. Ils ne savent plus distinguer une affirmation d'une démonstration, une opinion d'un fait. Non, ils parlent en tant que X ou en tant que Y, et puisque leur expérience de X ou de Y ne saurait être comprise par ceux et celles qui ne la partagent pas, qui ne partagent pas la même identité, eh bien l'échange s'avère impossible. Conclusion, ces codes orwelliens loin de favoriser la diversité comme ils le prétendent, enferme en réalité les étudiants dans des conformismes absurdes, veille sur ces pratiques de censure des armées de bureaucrates, les Diversity Officers, à Amherst. 20 personnes sont employées à ce titre pour surveiller le langage de 1800 étudiants.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Raphaël Bourgois et la Grande Table.